Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Playground FR. On se retrouve aujourd'hui, comme depuis bientôt deux semaines, pour les previews NBA sur la saison 2021. Et aujourd'hui, on rentre enfin dans les équipes qui auront l'avantage durant les playoffs, l'avantage du terrain, j'entends bien. Comme d'hab, j'espère que vous allez bien. Je vous fais le petit récap de ce dont on va parler, les points. Comme d'hab, on sait, 3 points. D'abord, on s'occupe de ce qui s'est passé durant la saison 2020 pour chaque équipe. Ensuite, on s'occupe de ce qui s'est passé durant le marché des transferts cet automne. Et enfin, petite boule de cristal, et on regarde ce que je pense de leur saison 2021, donc la saison à venir, vous l'avez compris. Donc là, je l'ai dit, on s'occupe des places 4, première équipe qui auront l'avantage en playoff. On commence par l'équipe de l'Ouest aujourd'hui. C'est parti. Golden State by 3. Difference of 2.5 seconds, game clock and shot clock. Lillard, working on Burks. Dancing free, a 3, good! Ah, pour tout vous dire, j'ai galéré à trouver quel extrait j'allais vous mettre de Damien Lillard. Hein, le mec met des buzzers tout le temps, des 3 points de ouf tout le temps. Ça n'a pas été facile. Mais je suppose que vous l'avez compris, on s'occupe des Blazers, Portland. On commence par le bilan, comme d'habitude. Alors en 2020, les Blazers, c'est 35 victoires pour 39 défaites. Une 8ème place de conférence et un premier tour de playoff face aux Lakers. Alors, elle n'aura pas été facile cette saison pour Portland. On a vu des super belles choses, des très belles histoires. Et on a aussi vu des grosses galères. On va commencer par ça. Parce qu'après la blessure de Nurkic en playoff en 2019, on le sait, je crois, fracture de la jambe. Alors, peut-être ouverte, peut-être pas, je ne me souviens plus bien. En tout cas, sale fracture, saison blanche pour lui. Qui n'a pas été totalement blanche grâce à cause du confinement et donc du retard de la saison et de la réouverture de la saison, beaucoup de fois saison, à Mickey, chez Mickey. En tout cas, quasi saison blanche pour Nurkic. Zach Collins qui se pète au bout d'une dizaine de matchs, je crois, lui qui a été un peu coupé dans son élan parce qu'il faisait, il commençait à être important dans cet effectif. Et puis bien sûr aussi la blessure de Rodney Hood. Ce qui fait que ça commence à faire beaucoup là, non? Donc ça faisait beaucoup de joueurs importants qui n'étaient pas là. Et évidemment, ça a dû être encore, entre guillemets, tout dans les bras de Lillard et de CJ McCollum. Mais quand tu commences à perdre Nurkic, Collins, Hood, là ça fait un peu trop et Portland a galéré en défense. Autant, on a vu, j'en parle juste après, Lillard mettre le feu en attaque. Autant en défense, ça a été, je l'ai sous les yeux, 3ème offensive rating, 28ème defensive rating. Donc autant dire que Portland cette année, c'était les portes ouvertes de leur côté du terrain. Sinon, je viens de le dire, Lillard était sur la lune. Hein, donc sa saison, c'est une saison en 30 points, 8 passes, 4 rebonds, une petite interception qui va bien, des matchs à 60 points, des matchs à 50 points. Ça a été n'importe quoi, c'était la folie des buzzer beaters, des 3 points dans tous les sens. Lillard était incroyable. Et All-Star, mais blessé durant le All-Star Game. C'est vrai qu'il y a eu des petites blessures aussi, des petits bobos pour Lillard. Donc forcément, quand ton meilleur joueur se pète, ça commence à... Alors ça n'a pas été pour énormément de matchs, mais ça t'empêche d'engendrer un peu plus de victoires que ce que tu aurais pu ou dû avoir. Mais en tout cas, donc étoile qui n'a pas pu... concrétisé, on va dire, puisqu'il n'a pas pu aller au All-Star Game pour cause de blessure, et il a fait le push pour que ce soit Mr. Devin Booker. Voilà, j'ai failli ne pas retrouver son prénom. Pour continuer, évidemment, à côté de Lillard, on a eu CJ, donc McCollum, qui a fait une jolie saison, hein, base de 20 points, ses 4 passés, 4 rebonds, voilà, rien à dire, le gars il fait ça. Alors en défense, c'est la galère, mais autant en attaque, voilà, on l'a vu. Bon, cette année, ça n'a pas été le cas. Mais en 2019, il a fait le boulot en playoff. Voilà, c'est un gars qui est capable de faire la différence offensivement. Le plan Trevor Ariza qui ne s'est pas super bien passé. Hein, donc, le running gag Trevor Ariza qui est allé à Sacramento, ça n'a pas marché. Trade à Portland, on s'est dit, c'est bien, ça apporte de la défense. Moyen. Et puis là, depuis un mois, Trevor Ariza a traversé les quatre coins du pays, littéralement. Bon, en tout cas, ça ne s'est pas super bien passé à Portland. Quelque chose qui s'est beaucoup mieux passé, du côté de l'Oregon, Monsieur Carmelo Anthony. Et oui, vous le savez, je pense, si vous suivez un peu la NBA. Grosse galère pour Carmelo, entre Houston, OKC, ça a été très compliqué. Et là, il arrive à Portland sans grandes attentes. Il y a déjà des stars dans l'équipe. En plus, il l'a dit, les propos sur Lillard sont très beaux en disant que ce sera un super Hall of Famer, que c'est un super leader. Et inversement, Lillard a bien fait savoir qu'il kiffait Melo. Mais en tout cas, super saison. Sur le poste 4, 3-4, je ne sais plus bien, de Melo, ses petits 15 points, bien sûr. Bon, défense, quoique, j'allais critiquer la défense de Melo, mais en tout cas, il avait de l'envie un peu cette année. On l'a vu s'arracher pour prendre certains rebonds. Offensivement, c'est toujours magnifique. Donc, gros point positif, hein. C'est aussi pour ça que l'attaque de Portland était très cool. Parce que quand tu as Melo dans ton attaque, qui en plus comprend qu'il n'est pas la star et qui joue, comme on le sait, du côté. De Team USA, bien sûr, ça fait un super joueur. Youssouf Nourkic, je vous en ai parlé, blessé. Hassan Whiteside, bon, bah, on connaît le bonhomme. Quand il a envie de jouer, il est super, il fait du 15-15. Quand il n'a pas envie de jouer, c'est horrible. Donc bon, il a quand même envoyé du 15-13 sur la saison, c'est pas mal. Après, voilà, on sait ses limites, ses faiblesses, assez bon défenseur, assez gros contreur. Et puis voilà, quoi, faut qu'il ait juste envie de jouer, ce qui est pas mal. Et puis autour de tout ça, moi j'ai bien aimé aussi quand même la saison de Gary Trent Jr. en sortie de banc. Ça va être nickel, surtout pour l'année 2021. On arrive. Mais pareil, Anfernee Simmons, je ne sais pas comment vous voulez dire. Il y a eu des très belles saisons de petits joueurs comme ça, Gary Trent, Anfernee Simmons. Très très cool. Mais voilà, globalement vous l'avez compris. Gros souci des blessures pour cette équipe de Portland, c'est fou ça. Hein. C'est pas la première année qu'ils galèrent à cause des blessures. Et puis, malgré un Damian Lillard complètement incroyable, c'est un peu juston pour les playoffs. Donc, ça a géré le play-in, enfin, ça a géré dans la bulle, parce qu'au début, Portland était 9e, hein, et c'est Memphis qui a craqué un peu, et Portland qui est remonté. Ça a géré le play-in, et donc, les playoffs. Premier tour face aux Lakers, ça prend le premier match, et puis finalement ça aurait été trop compliqué face à cette équipe monstrueuse de Los Angeles. En plus, il y a une petite blessure de Lillard, malgré le retour de Nurkic. Nurkic est revenu dans la bulle, mais ça a été trop court pour que ça fasse le boulot face à cette monstrueuse équipe de LA. Mais donc, on y va tout doucement, mais sûrement, la draft. Et la free agency de Portland Masterclass. Là, on est au niveau des Lakers, au niveau d'Atlanta. J'en ai parlé un peu pour Atlanta. Certains, il peut y avoir débat qui sont les champions de cette free agency, de ce marché des transferts. Mais Portland, attention, candidat très sérieux dans la bataille, on va dire, des équipes qui ont le mieux réussi leur automne, puisque c'est pas vraiment l'été, le mois de novembre. Donc, très gros candidat pour l'équipe qui a mieux réussi le marché des transferts. Donc, qu'est-ce que ça a donné du côté de Portland? Bon, niveau draft, vous allez vite comprendre que c'était pas la folie, mais l'objectif n'était pas vraiment là. Donc, ils ont sélectionné avec leur choix numéro 46, CJ Elebi. Alors, un forward de Washington State, pardon. C'est tout ce que je peux vous dire. Je ne le connais pas du tout. Je sais juste qu'il a une coupe de cheveux à la Tahiti Bob. Voilà, on verra ce que ça donne. De toute façon, il ne devrait pas avoir énormément de minutes. Sortir du banc et être, je sais pas, en garbage time. Pas beaucoup plus, en tout cas. Ce qui est très intéressant avec l'été de Portland, ce sont tous ces trades qui ont été effectués. Ou même Free Agency. Hein. Free Agency aussi, pas mal. On commence par les départs parce qu'ils sont pas très importants. Whiteside et Ariza sont partis. Alors Whiteside, je crois que c'était la fin de son contrat, si je me souviens bien. Mais bon, on sait, c'est plus une galère qu'autre chose que ce joueur, sachant que Enes Kanter est rentré au bercail. En tout cas, bon, il a fait plusieurs teams. Mais c'est vrai qu'avec le maillot de Portland, on l'a vu faire des belles choses. Alors, toujours incapable de défendre, mais très intéressant en attaque. Et aussi Ariza qui s'en va dans un trade pour récupérer Monsieur Robert Covington. J'en parle juste après. On continue avec les départs. Mario Ezonia d'un côté, Wenen Gabriel de l'autre, Skal Labissière, Caleb Swanigan. Bon, pas des joueurs hyper importants, Mario Ezonia quand même. Mais après le reste, franchement, quand tu vois ce qu'ils récupèrent du côté de Portland, c'est très bien. J'ai parlé un peu d'Enes Kanter, Robert Covington, donc dans le trade d'Ariza, lui qui est parti faire son périple autour des États-Unis. Robert Covington, c'est un super apport défensif, 3 points. Enfin, en fait, c'est juste le fit parfait dans cette équipe. C'est ce qui manquait pile poil en poste 4. À côté de Nurkic, en plus, ça va être incroyable. Il va laisser la place dans la raquette à Nurkic, mais il peut aussi jouer à côté de lui. Ouais, c'est juste parfait. Robert Covington, je pense à Portland. Si le fit se fait, hein, là, moi je dis tout ça, mais bien sûr qu'il faut que le fit se fasse pour chaque joueur qui arrive, bien sûr. Aussi, Derrick Jones Jr., hein, donc le marsupilami de Miami. Alors, au-delà d'un marsupilami, c'est aussi un joueur qui défend pas trop mal. Hein, c'est un ailier très longiligne, donc il va pouvoir faire le boulot sur les postes 3-4 pour défendre, pour aller chercher des passes de Dame. Donc, c'est vraiment très cool. Harry Giles aussi, qui était chez les Kings, est venu renforcer l'effectif de Portland. Et en plus, on l'a vu là en pré-saison, il a fait un gros match face à Sacramento, hein. Juste un petit SO aux Kings lors de la rencontre. Voilà, il a détruit ses anciens coéquipiers. À voir ce que ça donnera, mais c'est pareil, c'est un joueur intéressant, assez jeune, même très jeune, qui pourra sortir du banc et qui vient ajouter une carte de plus dans la main de Monsieur Terry Stotts, le coach de Portland. Maintenant, il va falloir qu'il gère tout ça. Donc, je vous l'ai dit là, les arrivées de Robert Covington, Derrick Jones, Enes Kanter, Harry Giles, principalement. Et aussi, hein, ne les oubliez pas, on a Rodney Hood, qui a signé son contrat malgré sa blessure. Alors, il n'a pas pris un chèque énorme, mais il a pris un petit contrat. Je ne pourrais pas vous dire les termes, je ne les ai pas sous les yeux. Et aussi, la belle aventure Carmelo Anthony qui continue. Lui, je sais qu'il signe un an. Et pour quel montant, je ne pourrais pas vous dire non plus. En tout cas, voilà, Rodney Hood, ça doit être 3, 4 ans peut-être. Et Carmelo Anthony, on est sur un an. Donc c'est un peu, et ça va être toute la question pour 2021, l'année ou jamais pour Carmelo. Et aussi peut-être pour Portland, pour Damian Lillard, bah, pour tout l'effectif en fait. Est-ce que ça va être l'année ou jamais pour aller embêter les grosses cylindrées de l'Ouest et même accéder au final NBA? Bon, déjà, effectif super sérieux. Free agency hyper bien géré. Bravo. Ça, c'est déjà très bien. Ensuite, les blessures maintenant sont derrière eux. Nurkic, il est revenu. Zach Collins, je sais plus s'il s'est reblessé ou pas. Mais en tout cas, parce que je crois il n'est pas revenu durant la bulle, Zach Collins. J'ai pas envie de dire de bêtises. Ou alors il s'est reblessé dans la bulle. Je sais plus. Rodney Hood, normalement, va revenir. Pas de blessure. Attention à cette équipe. Là, on a une équipe qui attaque très bien. Hein, donc, Damian Lillard, CJ McCollum. Globalement, cette équipe attaque bien, Melo évidemment, mais aussi en défense, où ça va être hyper intéressant avec les Covington, on le sait, il est capable de prendre tout le monde. Nurkic dans la raquette fait un très très gros travail. Hood sur le poste 2-3, ça va être une régalade aussi en défense. Je pense qu'on va très bien passer du 28e ratings au pourquoi pas top 15, top 10 rating défensif, ça m'étonnerait pas. C'est ce qui manquait l'année dernière. Pour 2021, le front office a fait en sorte que Portland se soit dangereux des deux côtés du terrain. Voilà pour ça. Ensuite, avec tous les joueurs que je vous ai énoncés, déjà le 5 majeur, il va être hyper impressionnant. À savoir, alors, on va faire des 5 majeurs un peu fictifs, mais Damian Lillard, CJ ou Rodney Hood, pourquoi pas, à savoir si on veut plutôt défendre, plutôt attaquer. Ou mettre Rodney Hood en 3 et mettre CJ McCollum à côté. Derrick Jones Jr., je vous l'ai dit, poste 3, 4, pourquoi pas. Robert Covington, Zach Collins, Carmelo Anthony, tout ça sur le poste 4, ça fait beaucoup. Tu peux jouer grand, tu peux jouer petit, tu peux mettre Yusuf Nurkic, tu peux mettre Enes Kanter pour aller attaquer. Enfin, les possibilités, elles sont incroyables. Est-ce qu'on n'a pas, déjà l'année dernière, avant les blessures, c'était une équipe qui était pas mal fournie. Est-ce que cette année, on n'a pas l'effectif le plus profond de toute la ligue, en fait, tout simplement? Moi, je pense que si. Je me mouille, je dirais que Portland a l'effectif le plus profond, en même temps quand tous les postes sont doublés, voire même triplés par des joueurs qui sont assez intéressants. Donc c'est vraiment exceptionnel. Alors maintenant, tout ça, c'est bien beau, mais il va falloir comment tout ce petit monde, il arrive à se gérer. Est-ce que l'équipe va bien fonctionner? Est-ce que Terry Stotts, c'est pas un mauvais coach, c'est pas non plus un très grand coach, mais j'ai confiance en lui pour qu'il mène cette équipe où il le faut. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans la preview consacrée à Utah, en tout cas dans la partie de la preview consacrée à Utah, j'ai hésité. Au début, j'avais plutôt Portland en 5 et Utah en 4, et en fait, avec les forces que Portland a, je les ai passés devant. Donc, potentiel avantage du terrain en playoff, on verra pour l'instant, la saison 2021, elle est à prendre un peu avec des pincettes. En tout cas, c'est un peu, je vous l'ai déjà dit, je me répète, la saison ou jamais pour aller bousculer l'Ouest. On le sait, Lillard et McCollum ont de très très gros contrats. L'année prochaine, déjà, il y a pas mal de joueurs qui ont pris que 1 ou 2 ans. Et l'année prochaine, ça augmente encore les contrats de CJ McCollum et Lillard. Il va falloir faire en sorte ben, que soit les joueurs étaient contents cette année et prolongent pour pas grand-chose en termes de dollars, ou sinon, c'est la fin de l'équipe et on repart dans les places 7 à 10 et on galère un peu du côté de Portland. Donc là, le truc le plus important, c'est vraiment, il faut frapper cette année ou ça peut être encore la galère et malheureusement, un leader comme Lillard, pas facile à faire cette phrase, n'aura jamais de titre. Mais en tout cas, j'ai envie d'y croire pour le coup. Je verrais bien, ouais, pour le coup, je verrais bien, ça va pas être facile, mais je verrais bien. Portland en finale, ah non pas NBA, j'ai quand même eu une équipe favorite de la ligue, d'accord, j'aimerais bien les voir en finale. En finale de conférence, comme en 2019 où c'était l'épopée de folie et puis ça s'est cassé les dents sur une équipe de Golden State bien trop forte. Pourquoi pas cette année retourner en finale, mais plus faire chier l'équipe qui sera en phase 2, sur un 6 matchs ou un 7 matchs. Après, malheureusement, ce ne sera pas le titre, quoi. Mais en tout cas, il faut que ça marche vite pour pouvoir pas trop galérer en début de saison. Il faut pas qu'il y ait de blessures, mais ça, comme dans toutes les équipes, c'est les blessures, hein, forcément, ça plombe ta saison. Voilà. Est-ce que ça va vraiment être la team qu'il faut pour concurrencer les gros cylindrés de l'Ouest? Ah, je suis vraiment très curieux de voir ce que ça va donner. Lillard, on le sait, c'est un mec qui est kiffé par toute la ligue pour son côté. Portland, c'est ma ville, c'est ma franchise, j'y resterai toujours, je ferai tout ce que je peux pour envoyer cette équipe en finale NBA pour ramener le titre dans cette ville. Attention, attention aussi, potentielle saison de MVP pour Monsieur Dame Dolla, parce que, bon, on le sait, il a fait des stats incroyables l'année dernière, mais quand tu finis 8e, c'est pas facile de l'avoir, ou alors faut faire des triple-double à tout va. En tout cas, cette année, avec une potentielle quatrième, troisième, allez, deuxième place, pourquoi pas, et un Damien, pardon, un Damien Lillard qui tourne en peut-être pas 30 points cette année, mais en 28, 8-4, avec une petite saison en 50, 40, 90. Attention, Lillard, ça peut être un candidat MVP très sérieux. Voilà, je pense que j'ai fait le tour du côté de Portland. Beaucoup de changements. Équipe très compétitive, mais peut-être que ça va être la saison ou jamais. Alors à faire attention et à observer parce que cette année ce sera super intéressant de regarder Portland comme tous les ans. Juste pour Lillard, de toute façon, c'est très bien de regarder Portland. Voilà, on va filer dans l'autre conférence, direction l'Est. Let's go! Tatum out front. Hawk at 7. Working against Butler. Got downhill. Couldn't punch it. Bam says get it out of here. Out of bio. Sky high with the block and rejection. That's why he's NBA all defensive. Qui dit Bam Adebayo dit Miami Heat. Bien vu pour les plus connaisseurs. Non, sans blague, bloc incroyable. Je vous invite à retourner voir les images. Ce contre sur Jason Tatum. Très fort ce Bam Adebayo quand même. Mais on va avoir le temps d'en reparler puisque vous le savez, vous avez compris. On s'occupe de Miami, le Heat. Alors, petit bilan rapidement. 44 victoires, 29 défaites, 5e de conférence Est, et bien sûr, vous le savez, la plus belle histoire de la saison, avec les Grizzlies, avec pas grand chose en fait, surtout Miami, finale NBA face aux Lakers, alors que personne ne les attendait ici. Ou très peu de gens, les mecs qui habitent en Floride, quoi. Bon, on y revient tout de suite. L'arrivée de Jimmy Butler, elle est parfaite. Il est fait pour jouer dans cette équipe et dans cette franchise. Ça colle tout de suite, c'est magnifique. Il apporte sa niaque de grand malade dans ce jeune collectif, parce que ça reste quand même une équipe avec des jeunes joueurs. Hein? J'en parlais. Bam Adebayo, bon alors lui, quel joueur incroyable. En attaque, capable de prendre du rebond, comme en défense aussi, capable de faire des passes, des bons écrans, une bête athlétique qui est capable de défendre sur tous les postes. Hein, certains le voyaient défenseur de l'année ou MIP. Quand un joueur il est dans ces discussions-là, c'est qu'en général, sa saison s'est bien passée. Statistiquement, pas incroyable, comme Jimmy Butler. Statistiquement, en fait, ça a été très étalé sur tout le collectif. Parce qu'en fait, cette équipe, c'est un collectif. Il n'y a pas de forcément Butler est à la tête. Mais c'est un magnifique collectif, super bien huilé par Eric Spoelstra. Il faut en parler de lui. On le connaît maintenant. Il a été chercher ses titres avec LeBron James. Mais en tout cas, ça reste un coach de fou. Il a galéré un peu là ces dernières années dans les places 7 à 10, des fois pas en playoff, mais toujours avec 4 bouts de ficelle. Il te fait. J'en sais rien, moi, il te fait un parachute. Donc c'est complètement fou. Développement des jeunes. J'en parlais, Bam Adebayo qui a seulement 22 ans. Duncan Robinson, qui est un peu plus vieux, mais lui, quel shooter ahurissant. Pratiquement 45%, même ça se trouve 50% à 3 points. Que dire de plus, si ce n'est bravo. Pat Riley, bravo Eric Spoelstra. À côté de lui, alors en sortie de banc, le chouchou de l'équipe, Tyler Hero. Voilà, pareil, shooter de dingue. Même chose que Duncan Robinson, hein, sauf que lui, c'est vraiment un gamin pour le coup. En saison régulière, alors là, encore un chapeau baissé en saison régulière, hein, parce qu'en playoff, Kendrick Nunn a eu un peu plus de mal. Mais en saison régulière, qui prend la place de titulaire devant Monsieur Goran Dragic, j'en reparle tout de suite. Et il a fait un taf de fou, Kendrick Nunn, parfait dans son rôle. Il n'a pas été drafté, je vous le rappelle. C'est vrai que ça choque un peu en playoff. Hein. C'est vraiment, on voit que c'est une première année et qu'il va falloir se développer un peu. Mais en playoff, qui vient faire le rôle de patron à la main? Goran Dragic, évidemment, parfait en sortie de banc, et qui après prend les rênes pendant les playoffs. Tout va bien. En fait, tout le collectif, et puis les arrivées de départ de Justice Winslow, qui avait montré des super choses, dommage pour l'équipe, mais quand tu fais venir Jay Crowder et André Iguodala, bon bah, qu'est-ce que je te dise, moi? Équipe hyper défensive, au collectif trop bien huilé. Voilà, ça donne la surprise de la saison, ça roule sur tout le monde en playoff, on en parle tout de suite. Indiana d'abord, au premier tour, 4-0, voilà, on n'en parle plus, bonjour, bonjour, au revoir. Ensuite, la sensation de la saison, énorme désillusion pour Milwaukee, qui se fait sortir 4-1 par Miami. Alors, il y a eu quand même la blessure de Giannis, hein, donc a manqué 2 matchs, 3 matchs. Je n'ai pas sous les yeux, je ne pourrais pas vous dire. Mais voilà quoi. On savait qu'il allait avoir une équipe qui allait être poil à gratter pour les Bucks, notamment parce que, je l'ai dit, Bam Adebayo, trop bon défenseur, qui peut réussir à contenir Giannis, et collectif, qui défend trop bien dans tous les cas. Donc, forcément, face à une équipe qui est centrée sur un seul joueur très fort. Bah c'est parfait d'avoir une équipe aussi bonne défensivement. Donc, gentleman sweep 4-1. Et puis, très beau combat face aux Celtics. Malheureusement, les Celtics un peu trop verts. Quel jeu de mots incroyable. Donc, un peu trop jeune, un peu de manque d'expérience. Pas assez rugueux pour ces chiens qui sont, qui sont à Miami. Et donc, 4-1, 4-2. Bon, en tout cas, 4-1 aussi, je crois. 4-1, puisque, si je me rappelle bien, les deux équipes, Lakers et Heat, arrive avec le même bilan qui devait être du coup 12-3. 12-3 et 12-3. Donc voilà, ça roule sur l'Est. Et puis, comment tu fais face aux Lakers? Très compliqué. On le savait dès le début, on le savait. Surtout que tu ajoutes la blessure de Dragic, la blessure d'Adebayo, Butler pareil qui se tord la cheville, ça commence à être un peu trop. Et donc le Heat a dû s'incliner avec panache, puisqu'ils ont quand même pris deux matchs, si je dis pas de bêtises. Là, je vous avoue que c'est uniquement à la mémoire et c'est pas facile, mais en tout cas, ils s'inclinent face aux Lakers. Magnifique histoire cette saison. Et que rajouter de plus à part un immense bravo à tout ce collectif et à Eric Spoelstra et à Monsieur Patoche, Pat Riley. Voilà, je me suis assez répété. Maintenant, fallait gérer pour cet automne, puisque vous l'avez compris, ça a été quand même une surprise et une équipe qui surprend deux saisons d'affilée. C'est pas le cas. Tu peux pas faire ça. Tu peux surprendre une saison. Tu peux pas surprendre deux saisons. Voilà. On n'ira pas jusqu'à 14. Mais c'est trop compliqué. Après, la saison d'après, il faut se renforcer et bam, venir direct en tant que contender. Donc on le fait rapidement ou pas, parce que quand même, assez grosse free agency et même la draft, hein, j'en parle aussi, du Miami Heat. Avery Bradley et Maurice Harkless qui arrivent. Voilà, comment vous dire qu'ils vont être comme deux poissons dans l'eau, des chiens qui défendent et qui sont capables de shooter. Quoi de mieux? Ils vont venir combler les pertes de Crowder, voilà, donc qui était capable de défendre et de shooter sur le poste 3, 4, 2, 3, 4, et Derrick Jones Jr. Donc j'en ai parlé juste avant parce que lui a rejoint Portland. Capable de défendre aussi, et puis le marsupilami. Donc voilà, Avery Bradley, Maurice Harkless, déjà, nickel, c'est parfait. Et à la draft, Precious Achiuwa qui arrive. Vous connaissez Adebayo, vous avez le Adebayo 2.0. Comment vous dire que avec Udonis Haslem qui a re-signé pour un an et Adebayo qui vont prendre en main Precious Achiuwa, alors pour ceux qui connaissent pas, pivot, hyper athlétique. Capable d'un peu tout, pivot du futur, pourquoi pas? Maintenant qu'Adebayo a redéfini un peu le statut de pivot en NBA qui était un peu oublié, ça va revenir très fort dans les prochaines années. Et là, Precious Achiuwa entre les mains de Udonis et de Adebayo, c'est trop. C'est beaucoup trop. C'est très très bien joué, encore une fois, de la part de Pat Riley. Et alors, si c'était pas assez de récupérer un pivot incroyable et deux joueurs qui sont mentalité Miami Heat. Les joueurs qui prolongent, c'est encore mieux. Adebayo, il met la daronne à l'abri avec un très gros contrat. Hein, donc la prolongation de son contrat rookie. Dragic, sur 2 ans, il va continuer son taf de malade, que ce soit en sortie de banc ou en poste de titulaire. Que dire de plus, hein, lui, il est fait pour être dans cette équipe aussi, à côté de Butler, ça s'entend très très bien. Myers-Leonard, pareil, qui pourra venir dans la raquette, poste 4, faire son charbon. Olynyk, il prend son année à 13 millions, pourra être utile, on l'a vu. Spoelstra, il sait l'utiliser en tant que shooter aux cheveux longs. Et puis, j'en ai parlé, je crois, rapidement, Udonis Haslem, qui prend sa 63e saison avec le Heat. J'exagère un peu, mais lui, il va avoir 40 ans quand même, il est toujours là. Bon, alors, il joue plus du tout, hein, mais. En tout cas, dans le vestiaire, c'est super important. Ça a l'air d'être un super gars. Et lui, bah, il prépare tranquillement sa mise en place pour passer du maillot short au costard dans le staff du Heat. Donc, vous l'avez compris, pas d'énormes changements, hein. Surtout trois ajouts très, très intéressants, mais pas d'énormes changements. Pas d'énormes pertes non plus, puisque. Bon, Derrick Jones, c'est pas très important. Crowder, il a fait une demi-saison. Il était très intéressant, mais il n'est pas resté très longtemps. Et voilà, surtout, on est sur la continuité, comme on l'a vu par exemple avec le Jazz, qui croit en sa continuité. Pareil pour Miami. Bon, eux, ils sont allés en finale, donc ils peuvent croire en leur force. Mais donc maintenant, je vous l'ai dit, cette année, ils sont contenders. Voilà, donc moi, je les place juste une position au-dessus de leur année dernière, et puis franchement, c'est presque pareil parce que dans la bulle, ils ont fini cinquième, mais ils étaient à un match d'écart, je crois, une défaite de plus que les Pacers. Donc voilà, je les place globalement au même endroit que l'année dernière. Vous l'avez compris, comme d'hab, je le dis, il y a des équipes qui se sont renforcées, il y a des équipes qui sont très fortes à l'est. Voilà, je pense que vous avez compris qui sont les trois équipes qui seront au-dessus du 8. Je vois pas spécialement Miami briller de toute manière en saison régulière. Je pense pas que ce soit la mentalité de cette équipe. Voilà. Je pense que ramener n'importe qui face à eux en playoff, en fait, et ils voudront faire le taf. N'importe quelle équipe, avantage du terrain ou non, de toute manière, je l'ai déjà dit pour les Blazers, c'est assez flou sur la saison 2021. Donc, ramener que ce soit les Bucks, les Celtics, les Nets, les Sixers, ça peut être un peu plus compliqué. Mais bon, cette équipe, elle est capable de défendre. Encore une fois, ils ont pris des joueurs capables de défendre qui vont se fondre à merveille dans ce collectif. Et puis les ajustements du coach, voilà, que dire de plus? En plus de ça, les jeunes comme Kendrick Nunn, où ça s'est un peu mal passé en playoff, Tyler Herro, qui lui, les playoffs, ça avait vraiment pas l'air de le déranger. Pareil pour Duncan Robinson, évidemment. Ça fait un énorme gain d'expérience en plus pour tous ces jeunes. Donc ça, c'est pareil, c'est parfait. Aller en finale NBA quand c'est ta première saison dans la ligue, c'est nickel. Et il y a quand même. Va falloir quand même faire attention. Là, les transitions sont un peu brutales. Mais il y a un grec qui va les attendre avec. C'est même plus un couteau qu'il va avoir entre les dents. Ça va être une machette. Hein. L'équipe a beaucoup énervé les Bucks, je pense. Et en particulier Giannis. Puisque là, on peut en parler durant la saison 2021. Miami était l'un des favoris pour récupérer Giannis. Malheureusement pour le Heat, il a signé le plus gros contrat de l'histoire chez les Bucks, donc j'aurai le temps d'en reparler hein, durant la preview consacrée aux Bucks. Mais faudra faire sans la Free Agency 2021 pour aller récupérer Giannis l'année prochaine. Mais on est dans les tuyaux maintenant, enfin il y a dans les tuyaux maintenant, la potentielle arrivée de James Harden avec le Heat offre tout le collectif. Ce serait, pour moi, ce serait une énorme erreur que le Heat. C'est compliqué à juger quand même ce choix-là. Mais ce collectif a très bien fonctionné. Il est allé en finale NBA Day 1, enfin année 1, année 1 plutôt. Et c'est James Harden. On le sait, James Harden, il vaut tous les rosters du monde si vous voulez. Mais après, il faut voir comment il s'incorpore. Lui, on a déjà vu que c'était pas. Alors il fait des perfs de malade en saison régulière, mais en playoff, c'est pas vraiment le joueur qui brille en playoff. En tout cas, il l'a jamais démontré. Et à voir si ce serait. Il défend pas, enfin vous voyez très bien ce que je veux dire. Est-ce qu'il a la mentalité du Heat? Ça, pour moi, clairement pas. Donc après, voilà, c'est à voir. Si James Harden débarque demain, est-ce que c'est un énorme step-up pour cette franchise? Ou est-ce que c'est une grosse erreur de dégager tout ce collectif qui est super bien mis en place par Spoelstra? C'est à voir. Moi, je pense plutôt sur la deuxième catégorie et je serais plutôt partisan de rester dans la continuité de ce qu'a fait le Heat en 2020. Donc pour moi, c'est impossible que Miami ne soit pas top 4 de l'Est. En tout cas, c'est à voir. Je vous avais dit pour les Sixers, c'est un plancher la cinquième position. Après, honnêtement, je me répète, pour moi, le Heat, qu'ils soient premier ou huitième, ça leur changera pas vraiment la vie en playoff et ils prendront chacune des équipes avec le même sérieux. Et ils voudront déglinguer tout le monde. Certains se posaient la question, savoir si cette équipe s'était pas assez améliorée, pas assez renforcée, comparée à ce qui les attendait dans l'année 2021. Je suis pas d'accord avec ceux qui disent qu'ils ne se sont pas assez améliorés. Ils ajoutent deux joueurs, je vous l'ai déjà dit, qui seront parfaits, un très bon rookie. Et donc, sur la continuité qu'ils ont, je vois pas pourquoi, avec le sérieux qu'ils ont montré, voilà, surtout ça, le sérieux et l'envie qu'ils ont montré. Ça m'étonnerait que le Heat aille pas au moins en finale de conférence défendre leur titre de champion de conférence Est. Voilà. Alors en finale NBA, peut-être pas, mais pour moi, le Heat, ils peuvent prendre n'importe qui, n'importe quand, même en 2021, hein, sur la suite de leur saison 2020. Ce ne sera pas une surprise, on les attend. Beaucoup, beaucoup d'équipes vont les attendre de pied ferme, mais je pense qu'ils décevront personne et qu'ils vont tout déglinguer. Je suis peut-être un peu trop optimiste pour cette équipe. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez. Mais en tout cas, voilà ce que je pense du Heat. Ça a été un peu plus court que pour Portland. J'avais pas mal de choses à dire autour de Portland. C'était très intéressant. Voilà, le Heat a fait un plus petit marché des transferts, une saison régulière 2020 magnifique et pour moi une saison 2021 qui s'annonce tout aussi bonne. Voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui avec les places 4. Donc, à l'ouest, Portland. À l'est, Miami. Dites-moi ce que vous en pensez. Comme d'hab, venez me rejoindre sur Instagram pour qu'on discute. Hein, si vous n'êtes pas d'accord et que vous voyez Portland numéro 1 de l'ouest ou Miami numéro 8 de l'est, qui sait? Venez sur Instagram pour discuter. Bien sûr, comme d'hab, retrouvez mes classements. Ce sera plus visuel, ce sera plus parlant. Puisque si vous n'avez pas écouté les previews, vous avez les petits résumés sur Instagram. N'hésitez pas non plus à aller écouter les previews précédentes. C'est toujours d'actualité, malgré le fait que la saison reprenne dans 2 petits jours. Hein. Alors je sais, j'ai sauté un jour, j'avais trop de travail. Je reviens, vous inquiétez pas, il y aura un jour où il y aura 2 previews, je vous le promets. De toute façon, j'ai pas le choix, puisque la saison reprend mardi nuit. Hein, un peu bizarre de dire ça comme ça, mais ça revient dans la nuit de mardi à mercredi. J'espère que ça vous a plu, comme d'hab. N'hésitez pas à partager le podcast, à laisser des étoiles, des pouces. Je ne sais pas comment ça fonctionne sur toutes les applications. Voilà, je vous laisse ici. Portez-vous bien. On se retrouve demain pour les places 3. Ça y est, on va rentrer dans le top 3. Et je pense demain, top 3 et top 2 aussi. On verra suivant mon planning. Mais je vous fais des gros bisous. C'était Lenny. Salut!